la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette année à la croyance, Pascal Angèle se penche sur les causes et les raisons des croyances.
Bonjour, oui, merci beaucoup à Éric Mouchenot de son invitation, à François Nida pour leur organisation. Je suis très content de pouvoir parler dans un cycle où il y a vraiment tout à fait à la fois à boire et à manger à propos de la notion de croyance. Il y a même des entrées, il y a des desserts, c'est donc parfait comme cycle. Pour ma part, je crains des choses assez redondantes par rapport aux autres sujets, mais juste peut-être un angle d'attaque un peu différent. Alors, comme vous le savez maintenant, si vous avez assisté à des exposés antérieurs ou aux suivants, la notion de croyance est une des plus difficiles qui soit, parce qu'elle a des aspects à la fois psychologiques, philosophiques bien sûr, logiques, métaphysiques, épistémologiques, sociologiques, anthropologiques, et elle se tient au confluent du domaine cognitif, du domaine social, du domaine pratique, du domaine théorique, et si bien qu'elle a beaucoup de traits qui sont souvent mélangés, qui rentrent en conflit. Et si vous lisez la littérature, une grande quantité de livres et de travaux qui portent ce titre ou qui portent sur cette notion, eh bien, c'est souvent en général des livres qui traitent de un aspect ou un autre. Par exemple, les anthropologues n'en parlent pas du tout de la même manière que les psychanalystes, que les psychologues, etc. Et donc, c'est un peu difficile, et j'ai eu du mal depuis des années que j'écris là-dessus, à faire une sorte de taxinomie, et c'est un peu ce que je veux vous proposer, mais c'est une taxinomie orientée, une taxinomie avec, comme on le dit, pour faire un anglicisme, avec une vengeance. Alors, il me semble qu'il y a un grand nombre de traits principaux des croyances, et c'est ça une des difficultés du sujet. Une croyance, ça désigne à la fois une attitude psychologique, celle du croire, qui en général est celle d'un individu, mais on peut l'attribuer aussi à des collectivités. Et ça désigne aussi le contenu de cette attitude. On dit, par exemple, j'ai une croyance. Ça ne veut pas dire je suis dans l'état de croyance, mais ça signifie qu'on renvoie au contenu. Deuxièmement, les contenus des croyances sont supposés être des propositions vraies ou fausses. Vous ne dites pas que vous avez comme contenu de croyance une couleur ou que vous avez comme contenu de croyance mal au pied. Vous dites « je crois que j'ai mal au pied » ou « je crois que je vois du rouge » ou « qu'il y a du rouge devant moi ». Donc la croyance vise la vérité au sens où les entités en question sont supposées avoir une relation quelconque avec la vérité. On dit « la croyance vise la vérité ». Troisièmement, la croyance joue un rôle causal dans l'action. Elle est une disposition à agir. Nous l'attribuons le plus souvent à des agents dont nous voulons expliquer le comportement. Par exemple, nous voyons quelqu'un qui court à toute vitesse derrière un bus et nous disons « il croyait qu'il pouvait l'attraper ». Et donc, c'est une disposition à agir le plus souvent ou quelque chose qui s'insère dans un raisonnement pratique. Quatrièmement, les croyances ont des raisons, à la fois au sens de motif et au sens de cause de l'action. Par exemple, si je crois que ce tableau est un vrai Picasso, et que j'ai assez d'argent pour l'acheter, je vais l'acheter. Mais si je crois que c'est une croûte infâme que je trouve dans une brocante, je vais pas l'acheter. Donc, si vous voulez, ça intervient aussi, comme je viens de le dire, dans des raisonnements pratiques. Et puis, une croyance, là, c'est la plupart du temps une justification ou une preuve. Par exemple, pourquoi a-t-il couru derrière le bus? Il croyait qu'il pourrait l'attraper. C'était un bus à impérial, comme autrefois, et il pensait qu'il allait pouvoir attraper avec la barre, comme dans les bus, vous savez, de Londres ou ceux de Paris autrefois. Cinquième trait également, je fais une sorte de cocktail, les croyances ne dépendent pas de la volonté. En général, elles sont des états involontaires. Alors évidemment, c'est une discussion que vous aurez peut-être déjà eue avec d'autres conférenciers. Il y a des situations, en effet, dans lesquelles on peut parler de la volonté de croire. Mais habituellement, les croyances sont des états passifs de l'esprit, pas des états actifs. Sixièmement, elles sont susceptibles de degrés. Vous croyez plus ou moins quelque chose. Par exemple, en regardant les nuages, vous pouvez croire jusqu'à un certain degré qu'il va pleuvoir ce soir. Mais évidemment, vous n'êtes pas sûr. Septièmement, les croyances ont une certaine texture rationnelle. Elles manifestent un minimum de cohérence, en particulier le fait que si vous avez une croyance qui est contradictoire, si vous croyez par exemple que cette personne est une crapule et que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, eh bien, il y a potentiellement une contradiction. Et si on vous demande d'avouer votre croyance, on va vous dire, mais alors il est quoi? Il est gentil ou une crapule ou les deux? Ah mais si, ça arrive qu'on soit les deux. Bref, il faut quand même une minimum de cohérence. Là, les croyances sont au minimum en principe conscientes. Mais même si on commence là-bas, il y en a certaines variétés qui semblent être proches du domaine non conscient. Neuvièmement, elles sont pas contextuelles. Je veux dire, par là, on n'a pas une croyance dans la minute, puis après une autre dans la minute qui suit. On n'a pas une croyance quand on est à Rome que c'est une grande ville, et puis après une croyance quand on arrive à Venise que Rome est une petite ville. C'est pas contextuel. C'est des croyances qui ont un certain standing. Ça veut dire qu'elles durent. Et puis, quelquefois, elles ont une tonalité affective ou émotionnelle. Quand je pense à Rome, quand je pense à Venise, effectivement, j'y pense pas exactement de la même manière, et je m'excuse pour ceux d'entre vous qui viennent de là, que lorsque je pense à Maubeuge. Et donc, ce sont des traits qu'on attribue aux croyances, mais si vous y réfléchissez 30 secondes, vous verrez que beaucoup d'entre eux ne forment pas une trame cohérente. Beaucoup de ces traits peuvent être éventuellement contradictoires. Comment, par exemple, une croyance peut être une disposition à agir, qui souvent est pas consciente, et en même temps répondre au trait que j'ai appelé celui de la conscience, c'est le trait numéro 8. Comment est-ce que on peut aussi appliquer les croyances à des animaux, ce qui me paraît tout à fait légitime et tout à fait naturel. Le chien croit que son maître va lui donner sa pâtée, et en même temps admettre que les croyances ont une certaine trame rationnelle. Est-ce que vraiment les chiens croient que la pâtée c'est pas la même chose qu'une certaine marque de pâtée est pas la même chose que l'autre? C'est pas sûr quand même qu'il ait un degré de cohérence à ce stade-là. Et donc ça a conduit à une stratégie qui a été illustrée, me semble-t-il, par certains des exposés que vous avez entendus ou que vous entendrez, qui consiste à dire, bon ben, la croyance c'est pas du tout tout ça, c'est pas du tout l'ensemble de ces choses-là, c'est une espèce d'archipel, c'est quelque chose qui est mosaïque, c'est une notion mosaïque, ce qui expliquerait pourquoi elle est si ambiguë, employée dans un sens où tantôt on tire à U et tantôt on tire à Dia. Cette position qui consiste à multiplier en quelque sorte les couches de croyances comme dans un gâteau, c'est une position qui m'a souvent tenté, que j'ai quelquefois défendu, mais qui finalement me semble pas bonne. Enfin, elle est seulement partiellement bonne. Il faut pas assimiler toutes les sortes de représentations mentales à des croyances. Par exemple, la perception, c'est pas en soi-même une croyance. L'imagination non plus, ni la mémoire. Ce sont effectivement des états et des parties de l'esprit qui donnent lieu aux croyances, qui en sont des sources. Mais ce ne sont pas en elles-mêmes des croyances, même si on parle quelquefois de croyances mémorielles ou de croyances imaginatives, etc. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est une notion qui est centrale dans la géographie de l'esprit, parce que c'est difficile de dire qu'on a des intentions si on n'a pas des croyances. C'est difficile de dire que on a peur de quelque chose si on ne croit pas que la chose en question existe. Évidemment, vous pouvez toujours dire « Ah ah, même pas peur !» parce que vous ne croyez pas que le chien qui est devant vous va se ruer sur vous. Mais si vous voyez de la bave commencer à couler de chaque côté de sa bouche, eh bien, vous aurez effectivement une croyance. Est-ce que vous pouvez désirer quelque chose sans en même temps croire que cette chose peut être au moins accessible ? On peut croire qu'on va attraper la Lune, mais même si ces croyances-là sont limites, en général, on croit plutôt qu'on peut désirer attraper la Lune. On a des désirs en général qui sont plutôt accessibles, même s'il y en a d'autres qui ne le sont pas, comme ceux par exemple de Fitzcarraldo qui voulait aller mettre un opéra dans la jungle. Donc, ça ne fait pas des états mentaux, les intentions, les émotions ou les sentiments des croyances, mais ça indique que nombre des états mentaux sont associés d'une manière ou d'une autre à l'esprit. Donc, la croyance, elle est en quelque sorte un peu comme Paris en France. Elle est au croisement de toutes les lignes ferroviaires. Ça ne veut pas dire qu'elle marche très bien, mais ça signifie qu'elle est un noyau. Mais si on multiplie toutes les formes de croyances, sur quelle base est-ce qu'on va se fixer ? Donc, sans une réflexion sur la taxinomie, on va multiplier les entités sans nécessité. Et certains auteurs que je vais citer, tombent dans ce chausse-trap. Il me semble qu'il vaut mieux penser la croyance sur un continuum, et je vais essayer de proposer cette idée-là, en admettant qu'elle a des formes dégénérées, voire des formes qui ne sont pas du tout des croyances alors qu'on croit qu'elles en sont, et qu'il y a plusieurs pôles ou rôles centraux de la notion. Pour commencer, je vais prendre un exemple. Pour vous montrer la difficulté de cela, qui vient l'autobiographie, est-ce que c'est l'autobiographie, je me souviens pas, du célèbre auteur américain John Hope Franklin, dont vous savez qu'il a eu la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine. Ce brave homme était en train d'attendre dans le hall d'un hôtel où le président Clinton s'apprêtait à lui donner the Medal of Liberty. Et une dame lui tend son manteau pour qu'il l'accroche au vestiaire. Si vous avez été aux États-Unis et que vous vous trouvez dans ce genre de situation, c'est relativement fréquent. Quelques heures auparavant, à l'hôtel où cet homme venait d'arriver, un inconnu s'était approché de lui pour lui confier les clés de sa voiture. Bref, ce héros de l'histoire américaine, ce grand historien, était ramené au rôle de Nestor ou de factotum dans le hall. Alors, est-ce que la dame en question avait une croyance ? Est-ce qu'elle croyait que John Hope Franklin était un factotum chargé de comme ceux qui sont en uniforme de s'occuper de garer sa voiture ou bien est-ce, donc ça pourrait être une croyance fausse, un préjugé, un type noir comme ça dans un club chic, ça peut être qu'un serviteur ou bien est-ce que c'est un biais raciste avec un stéréotype black therefore serviteur. Et donc, ici, ça permet de commencer la réflexion sur l'ambiguïté des notions. Peut-être que ça coexiste, peut-être qu'il y a un biais et une croyance, mais de quoi s'agit-il exactement ? Et c'est une des difficultés qu'on a, même dans des cas moins complexes que celui-là. Alors, les rôles des croyances, les rôles variés des croyances, je pense que il y en a trois. Il y a un rôle causal. Comme je viens de le dire, la croyance, c'est une disposition à l'action, elle explique l'action. Deuxièmement, elle a un rôle comme raison, c'est-à-dire ça justifie, ça permet de donner des explications, aussi bien d'ailleurs pour les actions que pour d'autres croyances, ça justifie, c'est-à-dire ça donne des preuves. En anglais, le titre, la notion, c'est « evidence ». Dans la traduction que mentionnait M. Mougenot de Clifford, c'est « élément de preuve », prend le traducteur. Je préfère « preuve », tout simplement. C'était le terme qu'employait Pascal et les écrivains du XVIIe siècle. Donc, il y a le premier rôle, c'est un rôle causal. Le deuxième rôle, c'est un rôle rationnel, si vous voulez. Et le troisième, qui va compter beaucoup dans mon propos, c'est le rôle des croyances dans les jugements, c'est-à-dire la capacité qu'elles peuvent avoir à donner lieu à la formation de quelque chose d'autre, de quelque chose qu'on pourrait appeler par certains côtés une croyance épurée, et en un autre sens, qui n'est plus une croyance, à savoir le jugement. Alors là aussi, c'est le même problème que pour mon archipel ou ma mosaïque, c'est-à-dire que on peut dire la croyance, c'est tout ça. C'est quelque chose qui manifeste ces trois sortes de fonctions ou ces trois sortes de rôles. Et puis, on peut aussi, en quelque sorte, appuyer non pas là où ça fait mal, mais là où ça nous plaît, en disant on va accentuer un des rôles. Je pense que les sociologues et les psychologues, ils ont tendance à s'intéresser essentiellement au rôle causal. Ce qui cause les croyances, ce qu'elles causent, est en quelque sorte une espèce de quasi-déterminisme dans l'univers doxastique. Deuxièmement, les philosophes s'intéressent, et les épistémologues s'intéressent au rôle des croyances dans les jugements. Moi, je suis philosophe, donc c'est plutôt ça que j'accentue. Mais en même temps, on ne peut pas adopter une espèce de dilettantisme ou de pluralisme, parce qu'ignorer une dimension ou un rôle de la notion de croyance, c'est en quelque sorte manquer les autres, et évidemment, il faut tenir tous les bouts de cette corde. Et je voudrais surtout dire qu'en se concentrant sur le rôle causal, les sociologues et les psychologues manquent la nature de la croyance, et ils s'en vont dans des chemins qui leur plaisent beaucoup, mais qui, à mon avis, sont... Quand il s'agit de revenir sur les bases philosophiques du discours, des chemins de traverse. Alors évidemment, c'est très très à la mode depuis des années de dire oui, je suis sur un chemin de traverse, je me promène. Mais je préfère quand même plutôt les voies centrales. Donc j'essaye de défendre ça. Alors la question que je voudrais poser. Je voudrais d'abord procéder de la manière suivante. Je vais essayer de proposer quelque chose comme un portrait robot ou un profil minimal de la notion de croyance dans lequel je mets quelques encres qui me paraissent être non pas définitionnelles, mais servir de base minimale pour la notion. Ensuite, je vais essayer de montrer que sur des exemples de pseudo-croyance, ce schéma minimal ne s'applique pas ou bien s'applique. Et puis j'essaierai de dire en quoi tout ceci peut conduire à une conception plus rationaliste des croyances. Alors ma première question, c'est une question que je mets ici sur cette diapo. Qu'y a-t-il dans une croyance que l'encre puisse tracer ? C'est une citation, une quasi-citation d'un sonnet de Shakespeare. Le sonnet 118, what is in the brain that ink may character? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau que l'encre puisse tracer? Et là, mon point, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la croyance? Alors, je vais donc préposer ce que c'est que le concept de base, et je l'ai déjà un tout petit peu annoncé. Le premier élément dans le concept de base de la croyance, et ici, je vais m'appuyer sur un schéma qui, d'ailleurs, sur ma diapo, a un tout petit peu été squeezé. Donc, hélas, vous n'allez pas y comprendre grand-chose. Par conséquent, je pense que je vais le laisser tomber, parce que, quelquefois, quand on met un habit, on s'aperçoit qu'il a délavé à la machine. Donc, je vais faire... Mais ça me suffit. Laissons tomber ces horribles diapos. Alors, premier élément de la base de la croyance, ce qu'on appelle le tenir pour vrai. En allemand, für wahr halten, tenir pour vrai, vous trouvez ça chez Kant, dans la logique de Kant. La croyance est une attitude propositionnelle, c'est une terminologie introduite par Bertrand Russell, qui en fait la tient plus ou moins de Bolzano et de la philosophie autrichienne. C'est une attitude qui est une attitude du même type que l'espoir, la peur... Le désir, le souvenir, ce sont des attitudes qui contiennent un certain contenu et leurs objets sont ce que les philosophes appellent des propositions. Alors le philosophe appelle proposition beaucoup de sortes de choses et là aussi c'est un peu complexe. C'est une entité, une proposition, c'est une entité qui est supposée représenter un état de choses existant ou possible et qui est supposée être vraie ou fausse. Ça c'est la base, donc on tient pour vrai une certaine sorte de contenu, de représentation, et même s'il n'y a pas une représentation, il y a quelque chose qui joue ce rôle d'être vrai ou faux. La proposition peut être, dans certaines conceptions, une entité abstraite qui ne s'identifie à rien de concret. Dans d'autres conceptions, ça peut être une phrase. Il y a des philosophes et des psychologues qui soutiennent que nous avons des phrases mentales qui s'inscrivent dans notre esprit. Donc à ce moment-là, c'est un peu une espèce d'image de la boîte à croyances. C'est un peu comme quand il y a une boîte dans un restaurant, une boîte à suggestions. Donc vous mettez dans la boîte, elle rentre dans la boîte, après on vide la boîte. Donc ce serait cette idée-là qui est entretenue par un certain nombre de psychologues. Et puis il y a une troisième conception qui dit que ça peut être des entités qui sont pas nécessairement des phrases ou des propositions de type abstrait, mais d'une manière ou d'une autre des modes de représentation et d'action qui sont ancrés dans le monde d'une certaine façon. Quoi qu'elles en soient, les croyances ont une certaine structure. Il faut bien qu'il y ait quelque chose du genre un sujet et un prédicat. Comme je le disais tout à l'heure, on peut pas dire je crois rouge, ou bien on peut pas dire je crois Macron, au sens de je crois que ce bonhomme-là est Macron. On peut pas croire chien au moment où on voit un chien. On croit que c'est un chien. Donc c'est quelque chose qui est susceptible d'être vrai ou d'être fausse. Et c'est pas du tout la même chose que les attitudes qui ne sont pas cognitives, comme la croyance. Les attitudes, par exemple, conatives, le désir ou l'intention. Dans le désir ou l'intention, vous désirez que le contenu soit réalisé. Vous avez envie d'une pomme, vous voulez que le contenu « j'ai ma pomme » soit réalisé. Mais c'est pas la même chose que si vous croyez que c'est une pomme, parce que si vous croyez que c'est une pomme, c'est l'état de choses, le fait qui est devant vous ou qui n'est pas devant vous, qui va être le contenu, qui va être de votre croyance. Donc il y a des distinctions importantes à faire sur la direction des croyances. Deuxièmement, il y a quelque chose que les philosophes classiques, depuis les stoïciens, chez Descartes, appellent l'assentiment, assentio. C'est plus ou moins l'ancêtre du terme de Kant, für wahr halten. Tenir pour vrai. Le tenir pour vrai représente un certain contenu, mais ce contenu n'est pas là flottant dans votre esprit comme une espèce de brume que vous ne saisiriez pas. Non, vous vous en saisissez, et d'une manière ou d'une autre, si vous le tenez pour vrai, eh bien, vous lui donnez votre assentiment. Il y a différentes manières de donner votre assentiment, évidemment. Si vous voyez un gros chien, l'idée que, en quelque sorte, dans votre esprit, vous vous diriez « Ah oui, c'est un gros chien. Ah ben, voilà un gros chien. » Eh bien, c'est vrai que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais idéalement, il y a plus ou moins la possibilité de reconnaître l'état de choses chien qui nous a été représenté d'une certaine manière. Et le fait que la croyance en question vise la vérité se voit bien, par exemple, dans une expression, dans un paradoxe ordinaire que qu'ont beaucoup étudié les philosophes, qui consisterait à dire c'est un gros chien, mais je ne le crois pas. Ou bien c'est un gros chien, mais c'est faux que ce soit un gros chien. Bon, ça paraît vraiment bizarre de dire ça. Vous pouvez pas, parce qu'effectivement, c'est à partir du moment où vous le croyez, vous le tenez pour vrai et vous donnez votre assentiment. Maintenant, est-ce que cet assentiment est volontaire ou pas? Ça, c'est la question à 10 000 dollars, parce que il y a des auteurs qui défendent l'idée qu'ils font un minimum de volonté, c'est le cas de Descartes, d'autres auteurs, comme Hume et Spinoza, dont je vais parler dans un instant, qui pensent que non. C'est clair que le fait de tenir pour vrai n'implique pas nécessairement qu'on ait quelque chose comme un acte de la volonté. Mais d'une manière ou d'une autre, ça demande quand même un minimum d'attention ou de représentation. Troisièmement, les croyances sont des dispositions. La croyance n'implique pas nécessairement un assentiment réel. Il y a des assentiments qu'on pourrait appeler tacites ou implicites, qui sont des assentiments qui correspondent à des choses qui ne nous viennent pas à l'esprit directement. La croyance que c'est un gros chien, que ce chien est dangereux, n'est pas nécessairement une représentation que je me forge devant mon esprit, comme si, en quelque sorte, j'avais une sorte de projecteur qui me dise « gros chien, oui, c'est pas comme ça que ça marche ». Il peut y avoir toutes sortes de croyances dispositionnelles. Si, par exemple, j'ai peur d'aller dans le marécage, ma peur d'aller dans le marécage tient peut-être au fait que je crois que le marécage, le bayou, est plein de crocodiles. Je me dis pas nécessairement, Ouh, c'est plein de crocodiles. Donc, ce sont des croyances dispositionnelles. Et il y a aussi des désirs dispositionnels. Par exemple, j'en ai rien à faire que l'équipe de France de rugby gagne ou pas le match. Mais quand elle a perdu, je suis déçu. Donc, c'est qu'en fait, je désirais bien ou je croyais bien que l'équipe allait gagner. Donc, il y a des croyances qu'on réalise comme ça, et évidemment, il y en a beaucoup. Alors, je préférerais plutôt dire qu'il faut être disposé, non pas à croire au sens d'avoir la représentation, il faut être disposé à faire comme si la croyance était vraie. Et là, à ce moment-là, ça prend en compte les croyances animales, parce qu'un chien peut très bien avoir une croyance qui est telle qu'il fasse comme si il attendait que son maître lui apporte sa pâtée. Donc, c'est le troisième trait. Il y en a un quatrième, sur lequel j'insiste beaucoup, mais qui est un peu plus difficile à expliquer, que peut-être dans cet exposé, je vais devoir laisser un peu obscur. La croyance n'est pas simplement une disposition à tenir pour vrai quelque chose ou comme une proposition. C'est pas simplement le fait d'être en relation avec une proposition qui est vraie ou fausse. Il faut que la proposition en question soit tenue pour être supposée vraie ou susceptible d'être vraie. C'est pas simplement le fait que vous soyez en relation avec une représentation. Par exemple, si vous tombez sur Internet, sur la phrase « Ulaanbaatar est la capitale de la Mongolie extérieure », vous savez pas où est la Mongolie, vous savez pas s'il y en a une intérieure, vous savez pas s'il y en a une extérieure, vous vous demandez si c'est du côté de la Moudaria ou du Sirdaria, ne savez pas. Vous savez même pas si c'est vrai, et il y a plein de phrases dans ce genre-là, du genre « un snark est un boujoum », des choses dans ce genre-là que vous trouvez dans la littérature. Et donc, c'est une représentation néanmoins que vous pouvez emmagasiner, enregistrer. Vous pouvez vous la représenter au sens où, par exemple, vous pouvez la répéter en vous et vous la faire une ritournelle. Il y a un exemple célèbre de ça chez Tchekhov. Dans Les Trois Sœurs, il y a un personnage qui s'appelle Tchiboutikine et qui dit à un moment « Balzac s'est marié à Berditchev ». Malheureusement, Berditchev a été bombardé violemment toutes ces dernières années, donc ça n'a pas cet aspect assez agréable de la pensée de Tchiboutikine, mais les trois sœurs se mettent à répéter elles-mêmes la phrase « Balzac s'est marié à Berditchev », avec Madame Anska, comme vous le savez. Et donc, elles savent pas qui est Madame Anska, elles savent pas qui est Balzac, on répète la phrase, elle est vraie, c'est vrai, Balzac c'est bien, mais ça n'en fait pas évidemment une croyance. C'est quelque chose qui flotte dans votre esprit, et qui vous met en relation avec une phrase vraie, cette fois-ci une vraie phrase, mais vous n'avez pas de croyance à son sujet. Il faut bien comprendre d'une manière ou d'une autre ce qu'on fait. Donc il faut bien comprendre d'une certaine manière, quand on a une croyance, il faut bien comprendre quelque chose comme l'idée que la croyance est soumise à des conditions de correction. C'est quelque chose sur lequel insistaient beaucoup des auteurs comme Brentano et Husserl. Une croyance est correcte si et seulement si elle est vraie. Il faut bien que vous ayez d'une manière ou d'une autre, pour posséder le concept de croyance, ça. Et elle est vraie que si il y a de bonnes raisons. Ça signifie que vous pouvez avoir des croyances sans pour autant avoir cet élément normatif. Par exemple, un chien ne dit pas « Oh là là, je crois dans la norme de la croyance, donc mon maître va m'apporter son... » Donc, cette norme me paraît tout à fait essentielle. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est la notion de raison qui figure dans mon titre. Quand on dit que les croyances ont des raisons, on dit qu'on a des raisons de les tenir pour vraies. Mais il y a aussi des raisons dans un sens strictement causal, dans le sens où vous dites que la raison pour laquelle vous faites quelque chose est la cause. Par exemple, si vous croyez que ce tableau est un vrai Picasso, ben ça va être la cause de votre achat du Picasso. C'est une raison causale, et il y a aussi des raisons causales toutes les raisons causales ne sont pas nécessairement rationnelles. Quand vous croyez que quelque chose est un vrai Picasso, c'est une raison tout à fait rationnelle, parce que vous seriez irrationnel si vous vouliez l'acheter et pensiez qu'il est faux. Mais il y a des cas dans lesquels, effectivement, vous prenez vos désirs pour des réalités, en particulier dans l'amour, par exemple Orlando Furioso, ou bien dans la bataille, vous croyez que vous allez gagner, et en fait, vous désirez gagner, mais c'est irrationnel, la cause ne passe pas par le bon chemin pour vous conduire à l'objet de votre croyance. C'est souvent ce qui se passe quand on s'illusionne soi-même. Donc si je prends tous ces traits, le caractère de raison des croyances, le caractère de norme, le caractère dispositionnel, le caractère d'assentiment et le caractère de tenir pour vrai, j'obtiens quelque chose que j'ai appelé, que j'appellerai volontiers, donc un profil minimal de la notion de croyance. Je crois que Sébastien Dieguez utilise la notion de portrait robot. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors, si vous avez juste ces notions-là, c'est de base, ça exclut un certain nombre de choses qui sont souvent considérées comme proches ou quelquefois qu'on assimile à des croyances. Ça exclut des pures réactions comportementales. Par exemple, quand vous bâillez, en écoutant un exposé de Pascal Angèle, quand vous riez, toujours dans la même circonstance, ou quand vous pleurez, toujours dans la même circonstance, ça peut être associé à des croyances, mais c'est pas des croyances. Votre bâillement, il est dû à une croyance, mais en lui-même, c'est pas une croyance. C'est des dispositions physiques ou des habitudes, comme par exemple, moi j'enfile pratiquement toujours mon pantalon en commençant par la jambe gauche. Mais c'est pas une croyance. Deuxièmement, je viens de mentionner la phrase de Tchiboutikine, Baljak s'est marié à Berdichev qui arrive. Ces représentations qui rentrent dans notre esprit, elles donnent pas lieu à une croyance. Prenez les palindromes, par exemple. Est-ce que vous connaissez celui-ci? Karine alla en Irak. C'est un palindrome célèbre. Vous le lisez dans les deux sens. Ça vous était déjà venu à l'esprit que c'était ça? Ou bien alors, il y a des croyances que les philosophes ont appelées tacites. Par exemple, je suis à table au restaurant et quelqu'un à côté de moi me dit « Il y a quelqu'un qui parle très fort à cette table. » En fait, je m'en rends pas compte, mais c'est moi. Je ne crois pas que je parle fort. Il a bien fallu que je localise la personne comme étant moi à un moment donné. Donc l'indexical « je » n'est pas dans ma croyance au départ. Et il peut en quelque sorte la cristalliser. Si bien que c'est ainsi que dans cette jungle, il y a deux modèles qui dominent pour expliquer les croyances. L'un, je vais l'appeler le modèle spinoziste. Le deuxième, je vais l'appeler le modèle cartésien. Spinoziste humien. Spinoza défend l'idée qu'il suffit que justement une de ces représentations que j'ai appelées des non-croyances, par exemple Balzac, bon, c'est pas l'exemple qu'il prend, n'est-ce pas? Il prend l'exemple d'un cheval ailé. Il suffit qu'une de ces représentations passe par votre esprit, rentre par votre esprit, pour que ça fasse une croyance. Autrement dit, il a une position très radicale, Spinoza, et je pense que c'est Éthique 2, proposition 78, il soutient que la représentation, la simple représentation d'un cheval ailé, par exemple dans un dessin animé, dans le genre de ceux qui a au MK2 à côté, suffit à vous faire croire qu'il y a des chevaux ailés, que les chevaux ailés existent. Et donc cette conception spinoziste a été aussi défendue par Hume, et lui il insiste aussi sur le fait que la croyance c'est un feeling. Vous avez une espèce de feeling que quelque chose est vrai. Mais ça ne passe pas par l'intellect. Au contraire, l'autre représentation, c'est le modèle stoïco-cartésien, dit la chose suivante. Il y a une représentation qui arrive dans votre esprit, un fantasme, qu'ils disent souvent, une fantasia. Elle arrive dans votre esprit, mais il faut encore qu'il y ait un contrôle, comme au portique d'entrée de la BNF. Il faut encore qu'il y ait un contrôle, et si vous le faites passer, ça devient une croyance. Si vous ne faites pas passer, c'est pas une croyance. Chez Descartes, il faut qu'elles aient une certaine caractéristique d'être vraies, d'être claires et distinctes, qui sont des marques de la vérité, et pas obscures et confuses. Et donc, selon ce modèle cartésien, eh bien, c'est tout à fait le contraire, parce que effectivement, quelque chose n'a la dignité d'une croyance que si il y a eu, en quelque sorte, si ça a passé la barrière de l'assentiment. Mais évidemment, on a vraiment l'impression que le modèle spinoziste est peut-être le plus attrayant. Ça correspond à tellement de croyances irrationnelles que nous avons, et ça tire tellement les croyances vers cette irrationalité, qu'on a l'impression que Spinoza va toujours gagner. D'autre part, le modèle intellectualiste semble complètement irréaliste. Est-ce que vous êtes tout le temps là, derrière le portique de votre esprit, à attendre que ça passe bien? Si c'est clair et distinct, paf, on donne le tampon sans ça rien. C'est évidemment, si c'est présenté de manière aussi caricaturale, ça peut pas aller. Mais il me semble que c'est quand même le danger qui guette les causalistes à propos de la croyance. Et c'est le cas des sociologues. Alors évidemment, les sociologues, il y en a deux sortes. Il y a des sociologues individualistes qui pensent que les croyances dépendent d'un modèle qu'ils appellent individualiste méthodologique, dans lequel on a un minimum de rationalité. On a des désirs, on a des croyances, on fait des évaluations des probabilités, on fait des évaluations de ce qui nous est utile, et puis on agit en fonction de ça. En gros, comme l'homo economicus. Mais il y a d'autres sociologues qui sont peut-être les plus fréquents sous nos latitudes, qui vous disent non, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est la notion, c'est la conception spinoziste. Et pourquoi est-ce qu'ils achètent, si je puis dire, la conception spinoziste très facilement? C'est parce que ça correspond à toutes leurs études. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais je pense que mon collègue Gérald Bronner le fera remarquablement, puisqu'il a écrit tout un ensemble d'ouvrages qui porte sur cette question qui l'a extrêmement documenté, en tout cas dans la littérature francophone. Mais évidemment, c'est une littérature immense qui a commencé depuis maintenant quasiment un siècle, qui consiste à tester expérimentalement les croyances des gens et à voir si, lorsqu'on les soumet à des espèces de petits quiz, ils répondent dans un sens ou dans un autre. Et le constat que l'on fait est globalement absolument atterrant. Les gens font des erreurs de raisonnement permanentes, ils sont soumis à des illusions cognitives permanentes, ils utilisent par exemple constamment des biais. Si bien que cette littérature, évidemment, c'est en quelque sorte du pain béni pour aboutir à la seconde étape de ces travaux, qui est celle d'arriver dans la cybersphère et dans le monde contemporain d'Internet, parce que c'est en gros ce qui se passe. On n'est pas tenté de penser que si les gens sont à ce point-là irrationnels et erronés, ben ils font des erreurs de ce genre. Alors, ça veut signifier en effet qu'il n'y a pas de rationalité des croyances. Et les seules raisons qu'il peut y avoir des croyances sont des raisons causales, dans le meilleur des cas. Alors, je ne vais pas détailler les travaux de Gérald Bronner, mais je pourrais mentionner un autre auteur qui a beaucoup défendu une version plus ou moins proche, mais encore plus radicale, c'est Dan Sperber, dans un livre qui s'appelle « L'énigme de la raison ». Il soutient la thèse selon laquelle, très proche de celle de Hume, selon laquelle, au lieu d'avoir des impressions dans l'esprit, nous avons ce qu'il appelle des croyances intuitives, qui donne lieu à des inférences, elles-mêmes automatiques et extrêmement rapides, qui ensuite produisent en nous des représentations que nous avalons, que nous absorbons, et que nous élaborons la plupart du temps dans des jeux d'argumentation qui ont des origines évolutionnistes. Inutile de dire que dans une conception comme celle de Sperber, mais aussi dans celle de Bronner, il est très difficile de donner de la place à une entité telle que la raison, c'est-à-dire une espèce de pilotage de l'esprit ou une capacité de juger à partir de laquelle, en quelque sorte, on pourrait déterminer par où notre navigation doxastique doit aller. Et donc, aussi bien ces deux, le naturalisme modéré de Gérald Bronner que le naturalisme radical de Sperber, je les appelle des obscurantismes subtils. Je les appelle des obscurantismes parce que précisément, ils laissent complètement de côté tout l'aspect de raison. Et même à la limite, chez Sperber, ils considèrent que la raison est une fiction. C'est comme chez Hume d'ailleurs. Un merveilleux instinct dans nos âmes, disait Hume de manière ironique, en laissant entendre que bien entendu, ça n'existe pas. Et donc, ils disent que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et alors, c'est subtil aussi parce que ils sont quand même rationalistes, ils sont quand même des chercheurs scientifiques. Mais ce qu'ils pensent, comme Spinoza, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez les causes de vos croyances, ça y est, c'est bon. Vous allez pouvoir passer, en quelque sorte, à l'étape suivante, qui pour Spinoza, évidemment, est une certaine forme d'intuition rationnelle qui va exister, bien sûr, pour un tel philosophe. Et c'est pour ça que Spinoza est quand même dans le bon camp, il n'est pas avec les méchants. Mais ça introduit toutes ces confusions dans l'univers doxastique. J'ai encore, je pense, un quart d'heure, oui. Si je peux. Je vais essayer maintenant d'aborder mon dernier point, qui est d'expliquer pourquoi ce que j'appelle les états pseudo-doxastiques n'en sont pas. Alors, je vais vous montrer tout ça sur une diapo qui, elle, n'est pas... Elle a été un peu squeezée. Je veux représenter la croyance comme étant un continuum, comme un arbre plutôt qu'un archipel. Mon idée est la suivante. Il y a un ensemble d'états que j'appelle pseudo-doxastiques. On les prend pour des croyances, mais c'est comme le Canada Dry, elles n'en sont pas. Il y a ensuite les croyances centrales, c'est là que j'ai mis ma barre au milieu, et les croyances centrales correspondent à ce que j'ai appelé mon profil type. Et puis, il y a d'autres états qui, en quelque sorte, sont des élaborations à partir des croyances que je les mettrai dans le domaine doxastique. Je vais les détailler et expliquer rapidement. Qu'est-ce qu'il y a qui fait l'objet, quels sont les états pseudo-doxastiques? Eh bien, ce sont essentiellement ce que j'ai appelé les croyances tacites. J'ai donné tout à l'heure un exemple, celui du convive dans un repas qui ne réalise pas qu'il parle trop fort et à qui on dit « tu parles trop fort ». Il pouvait peut-être en avoir une espèce de vague perception, mais il était tellement animé devant son steak frites qu'il ne l'a pas fait. Un autre exemple que j'aime bien, c'est ma montre s'est arrêtée. Je la donne à l'horloger. Il me la rend une semaine plus tard réparée. Il va me la rendre une semaine plus tard. Je sors de chez l'horloger sans ma montre, puisque je l'ai laissée chez lui. Et machinalement, par habitude, je regarde mon poignet gauche, qui est l'endroit où je mets habituellement ma montre. Est-ce que je crois que ma montre est sur mon poignet ou est-ce que je ne le crois pas? Oui, je le crois puisque je fais le geste, j'ai la disposition d'aller chercher ma montre sur mon poignet. Mais en même temps, je ne le crois pas puisque je viens de sortir de chez l'horloger qui est en train de réparer ma montre. Donc, c'est une espèce d'état de négligence, comme il y en a beaucoup. Ce n'est pas une croyance. C'est un état qui n'est pas conscient, mais qui peut être parfaitement contradictoire dans certaines situations, qui peut donner lieu à des contraintes. Ça, je ne lui fais pas passer le portique. D'autre part, les sentiments doxastiques, qui ont été beaucoup étudiés, par exemple par Jérôme Dokich, les sentiments doxastiques, c'est les impressions que vous pouvez avoir de savoir quelque chose. Vous avez quelque chose sur le bout de la langue, le nom d'un auteur. Mais qui est ce président de la République dont le nom commence par M ? Vous ne savez pas. Ou bien encore, ce que Freud appelle l'unheimliche, l'inquiétante étrangeté. Vous entrez dans une pièce, il y a quelque chose de bizarre. Ça vous donne un malaise. C'est un sentiment épistémique. Il y a quelque chose qui cloche, mais vous savez pas quoi. Ça, c'est pas des croyances. C'est pour ça qu'on appelle ça des sentiments épistémiques. Il y a les phobies. Alors ça, c'est très à la mode comme terme. Mais je vais pas prendre des exemples qui sont plus d'actualité. Je vais prendre le cas des araignées ou bien le cas de quand vous allez devant le Grand Canyon. L'exemple maintenant devenu typique à la suite d'un article d'une philosophe américaine, c'est vous allez visiter le Grand Canyon du Colorado et on y a installé une espèce de plateforme de verre qui vous permet de vous avancer dans le Colorado. Et évidemment, la profondeur vous donne le vertige. Vous croyez que vous allez tomber, donc mais en même temps, vous ne le croyez pas parce que vous êtes sur une plateforme qui, jusqu'à présent, est restée très ferme. Donc, c'est une espèce de phobie. Ça peut prendre des formes variées. C'est pas une croyance. Il y a les biais. J'ai parlé des biais. Et je vais pas prendre celui de John Hope Franklin, qui est pris pour des raisons racistes vraisemblablement, ou des habitudes de pensée racistes, pour un factotum. L'exemple d'une illusion clinique bien connue, c'est l'illusion de Capgras. C'était un ami de Proust, un médecin. Il a découvert qu'il y avait un certain type d'illusion cognitive ou de croyances délirantes dans laquelle on se croit mort. N'essayez pas de faire quoi que ce soit avec moi, je suis mort. Ça c'est une croyance délirante, pathologique, et il y en a plusieurs de ce genre-là. Il y a aussi le wishful thinking, c'est-à-dire le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Et puis il y a les proto-croyances. Alors, les trois dernières, on va essayer d'y aller un petit peu plus en détail. Les biais. Prenons les biais. Les biais, je reprends mon exemple de John Hope Franklin, c'est pas clair du tout dans l'exemple que j'ai pris que la dame en question a des biais sexistes, racistes, etc. Mais l'erreur que font beaucoup de sociologues, c'est de considérer que les biais sont comme des croyances. Et d'ailleurs, quand on dit que vous êtes sexiste ou que vous avez des stéréotypes sexistes ou machistes, etc., eh bien, on le considère plus ou moins comme une croyance. D'ailleurs, on considère d'autant plus comme une croyance qu'on vous en tient, on vous tient pour responsable de ces biais. Mais normalement, si quelqu'un vous dit « mais vous êtes sexiste », on va dire « oh, non, pas coupable, j'ai juste un biais ». Vous voyez la difficulté. Maintenant, si vous appliquez les critères ordinaires que j'ai mentionnés, la visée de la vérité, la norme de vérité, le profil dispositionnel, l'accessibilité aux raisons, la plupart des états doxastiques que j'ai mentionnés, croyances tacites et tout ça, ne sont pas des croyances. Mais évidemment, les causalistes vont les mettre dans ce sac des croyances et ils vont dire « nos croyances, la plupart, sont irrationnelles ». Je dirais simplement qu'ils mettent l'infradoxastique ou le subdoxastique dans le domaine du doxastique. Ils font une autre erreur, ces collègues sociologues, quand ils discutent en particulier les proto-croyances et les croyances. J'avais assisté à l'exposé de Sébastien Dieguez. Il a beaucoup écrit sur le problème des croyances conspirationnistes ou complotistes. Et on les connaît toutes, on connaît des caps des paradigmes, il y en a ici, là, sur ma diapo. Un tiers des Américains pensent que des aliens ont déjà envahi la Terre ou atterri sur Terre. Ils doutent que 6 millions de Juifs, avec un S, ont péri dans l'Holocauste. Un Américain sur quatre pense que Obama est l'antéchrist. 50%, ça je sais pas, j'ai pas vérifié, des Américains vérifient que le Pizzagate est vrai. Vous savez, c'est cet épisode dans lequel on a pensé que Hillary Clinton était propriétaire d'une pizzeria dans laquelle elle faisait de la pédophilie au sous-sol. 50% des Français, je l'ai pas encore vérifié dans une émission de télé avant-hier, pensent que Xavier Dupont de Ligonnès est vrai. Et beaucoup de Français pensent, alors ça se lit pas bien dans ma diapo, mais vous la devinerez, que Brigitte Macron s'appelle en réalité Jean-Claude Trogneux. Donc, c'est des croyances conspirationnistes. Les sociologues dont je viens de mentionner les noms, psychologues, les traitent non pas comme des croyances, et c'est pour ça que Dieguez dit que ce sont des croyances. On fait pas croire, on fait croiver. Ils pensent que ce sont plutôt des engagements, plutôt des professions de foi, ou plutôt des narrations, des histoires et des théories que l'on propage, que de véritables croyants. En fait, ce sont des croyances feintes. On n'y croit pas, on fait semblant, mais comme on a des friends sur Facebook, on veut se les concilier et on dit, oh, bien sûr, Clinton a fait de la pédophilie dans une pizzeria. Sauf que ça pose un problème quand on veut faire la classification de cette manière-là. Je suis d'accord avec eux qu'il faut bien entendu distinguer de tels engagements des croyances qui répondent au profil dont j'ai parlé. Mais si c'était de simples fictions ou de simples inventions du genre « on nous ment » ou de simples postures doxastiques, ça devrait normalement ne pas conduire les gens à agir. C'est-à-dire, vous n'allez pas, en apprenant que Brigitte Trogneux s'appelle Brigitte Macron s'appelle en réalité Trogneux, systématiquement lui offrir de l'eau de toilette pour homme, ou bien faire des trucs dans ce style-là. Vous allez... Vous ne faites pas ça parce qu'en effet, vous n'y croyez pas. Mais en fait, il y a un type qui est rentré dans la pizza à Washington et il s'est mis avec un fusil. Alors non pas à tirer parce qu'il a été arrêté avant, mais enfin il pensait bien que c'était qu'il y avait des pédophiles dans le sous-sol. Ou bien encore les électeurs de Trump. Qui doivent bien croire d'une manière ou d'une autre qu'il est le sauveur de l'Amérique, parce que ça marche, on vote pour lui. Ou bien encore les anti-vax, ils doivent bien croire d'une manière ou d'une autre qu'il y a un complot, parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Donc ce sont bien des actions qui découlent de ces complots. Donc on ne peut pas dire que ça soit juste de la posture. Et d'autre part, ces croyances sont feintes, sont basées sur des théories. Elles sont basées, comme le dit Gérald Bronner, sur des narrations, mais d'une manière ou d'une autre, les narrations sont basées elles-mêmes sur des croyances. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse, en quelque sorte, les détacher du domaine de la croyance. Et je pense que ce sont encore des croyances, mais elles relèvent de ce que Kant appelait des croyances pragmatiques, c'est-à-dire des croyances que nous adoptons, qui reposent sur des croyances effectives, mais pour des raisons stratégiques. Donc, effectivement, elles ne sont pas du même ordre que les croyances qui correspondent à mon profil, mais elles sont quand même dépendantes de croyances et elles sont en partie composées de croyances. Si on adopte une espèce de ligne comme ça avec mon arbre doxastique, il me semble qu'on a une meilleure classification et qu'on évite de tout réduire aux causes. Maintenant, tout dernier point, et c'est là que je vais m'arrêter, ma conclusion, comment est-ce que les croyances rationnelles sont possibles ? Pourquoi est-ce que je me suis amusé, c'est pas que ici, à faire toutes ces classifications, cet herbier. À mon avis, elles sont essentielles, non seulement si vous voulez pas mettre toutes les croyances du côté causal, et donc avoir une conception qui est, comme je le dis, subtilement obscurantiste, mais si vous voulez pouvoir comprendre le lien de la croyance au jugement et à la connaissance. Il est faux que toutes nos croyances soient irrationnelles, trompeuses ou soumises aux lois de la psychologie évolutionniste et aux explications pathologiques. Bon, si vous allez, par exemple, au Québec, vous avez dans les librairies un rayon où il est écrit, il y a un rayon qui s'appelle « Psychologie populaire », et puis juste à côté, il y a un autre rayon, il est écrit « croyance ». Alors comme je m'intéresse au sujet, souvent je vais vers ce rayon. Et sur quoi est-ce que je tombe ? Ben, sur des croyances magiques, Bon, donc on a une espèce d'image selon laquelle la croyance, c'est forcément irrationnel. Exactement comme en philosophie, je vais dans la même boutique au Québec, je vais à philosophie, et je n'ai que des ouvrages de Badiou. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la croyance un aspect, un ingrédient qui permet de penser le lien possible aux raisons. Et je pense que le modèle spinoziste, si tant est que Spinoza parle vraiment de croyance, parce que c'est vrai que la plupart du temps, il parle de connaissance par oui-dire, et Descartes aussi n'utilise pas la notion de croyance. Mais ces auteurs ne mettent pas du tout de rapport avec les raisons. Or, est-ce que ce modèle cartésien, comme je le disais tout à l'heure, est crédible ? Il tire certainement les croyances vers les jugements conscients, dans lesquels on pèserait les raisons, ou on les balancerait, c'est une image stoïcienne, en faveur de leur contenu, où on pèserait en quelque sorte leur marque de clarté et de distinction, ou leur obscurité et leur confusion. et où la volonté vient en quelque sorte sanctionner cette alimentation qui est donnée à l'entendement. Ça paraît, comme je le disais, idéaliser complètement le processus de croyance et ne correspondre à rien du tout dans la psychologie ordinaire des états doxastiques. J'en conviens. Mais tout d'abord, on doit admettre que ce type de croyance-jugement doit au moins être possible. Il nous arrive souvent de délibérer sur ce qu'il nous faut croire. Les savants ne font pas autre chose. Il nous arrive souvent de prendre des décisions informées, hein. Mon fils est en train de chercher un autre job, il n'est pas spinoziste. Hein. On agit sur la base des raisons. On fait de la délibération doxastique. Et on a tort de considérer toutes les croyances comme potentiellement des illusions. Deuxièmement, on n'est pas obligé de prendre les raisons dans une délibération doxastique à la lettre, comme si elles étaient en quelque sorte conscientes et qu'elles étaient quelque chose comme une espèce de voyage noétique que nous accomplirions entre nos représentations et nos jugements. Parce qu'il y a beaucoup dans nos croyances perceptives, dans nos croyances qui sont en quelque sorte infra-jugementales, si je peux m'exprimer avec ce barbarisme, il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles nous mettons en jeu implicitement des normes. Prenez par exemple la situation bête suivante. Je reviens à la maison. La voiture n'est pas là. J'en conclus que ma femme a pris la voiture pour aller faire des courses. C'est quelque chose que je vois tout de suite par un raisonnement en quelque sorte intuitif ou implicite. J'ai pas besoin de me dire « Oh tiens, la voiture n'est pas là ». Oh tiens, d'habitude ma femme la prend. Oh tiens, alors c'est qu'elle est pas là. Donc évidemment, je fais ces transitions qui sont des transitions presque automatiques, mais qui en réalité supposent quand même un certain effort mental à partir de mes perceptions, et je fais une forme basique d'inférence. Et cette conception basique d'inférence, elle répond peut-être pas à des normes, si le mot est trop fort, mais à ce qu'on pourrait appeler, et j'utilise ici le terme d'un philosophe américain, des liaisons normatives qui jouent un rôle dans nos jugements. De même, je n'ai pas du tout parlé des degrés de croyance. C'est tout un chapitre dans la psychologie de la croyance et dans la sociologie. Les degrés de croyance, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il ne faut pas plaisanter avec ça, comme font certains qui sont trop cartésiens, justement. Les cartésiens n'aiment pas les degrés de croyance. Ils trouvent que c'est, en quelque sorte, une espèce d'illusion. Non, il y a bien des degrés de croyance, pas tout le temps. Et peut-être qu'elles obéissent pas aux lois du calcul des probabilités, comme le soutiennent certains philosophes. Mais nous les utilisons implicitement dans un certain nombre de cas. Quand je vais prendre mon bus tout à l'heure, j'ai un degré de croyance raisonnable qu'il n'y aura pas une manif qui va bloquer l'arrêt du bus, etc. Donc, je les utilise aussi. Donc, le modèle cartésien n'est pas faux, mais il faut l'étendre un peu à des parties perceptives ou semi-perceptives de notre vie inférentielle. Et le dernier point, c'est que plus vous défendez la conception causale, plus vous accentuez le caractère causal des croyances, moins vous êtes prêt à admettre qu'on puisse avoir des croyances rationnelles. Vous vous dites simplement « Ah, mon pauvre dame, faut vivre avec ça, on peut pas changer d'avis », sans avoir quelque chose qui va externaliser nos croyances. Et ça, c'est ce qu'on appelle des nudges. Les psychologues ont inventé ce terme et cette pratique. Ça consiste à influencer à votre insu, à faire un certain nombre de directions dans lesquelles vous devez croire. Il y a un nudge qui est très fréquent dans les supermarchés, c'est que les bonbons qui sont situés à côté de la caisse sont faits pour que, au moment où vous arrivez avec un enfant pour payer vos produits, l'enfant va pleurnicher en disant « je veux un bonbon », etc. Le nudge dirige le client dans les... Bon, c'est utilisé par tous les gens dans le marketing, et puis il y a plein de nudges aussi dans la santé. Si effectivement vous êtes partisan de cette conception, effectivement, c'est très bien, vos croyances flottent dans votre esprit, elles viennent de l'extérieur, elles sont sociales, comme le disent la plupart des sociologues et des psychologues. Et dans une certaine mesure, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait d'autres qui dirigent vos croyances que vous-même. Alors je m'excuse, mais je suis resté effectivement rationaliste au sens classique. Je pense que sans l'instance du jugement individuel, il peut pas y avoir véritablement de rationalité. Mais c'est, ça ne veut pas dire que c'est facile. Les croyances ne sont pas nécessairement rationnelles, mais elles peuvent le devenir. Le jugement s'éduque, la critique s'apprend. Et par exemple, on peut apprendre la logique. On n'est pas voué à l'avoir uniquement sur des moteurs de recherche. Et cette vision s'oppose à celle que l'épistémologie sociale contemporaine tente à nous imposer, celle d'individus chez lesquels toutes sortes de croyances flottent dans leur esprit, dont la connaissance est complètement externalisée. Par exemple, moi, la plupart des choses dans mon esprit, c'est dans mon iPhone, et dont la connaissance est dépendante des machines et de prothèses cognitives. Vous connaissez Elon Musk, vous connaissez son projet Neuralink. Son idée, c'est une bonne petite puce qu'on met dans le cerveau et vogue la galère. C'est-à-dire, si vous avez un certain nombre de défauts, ben, ça va s'arranger. Donc ça joue un rôle, en effet, dans le traitement d'un certain nombre de pathologies. Mais on peut aller plus loin, et à ce moment-là, effectivement, il y a des raisons de penser que le vieil idéal d'autonomie est mal en point. Donc, ma conclusion, c'est... Alors, peut-être, effectivement, cette conception-là va-t-elle s'adapter à un certain type de croyances, celles qui ont des ressorts strictement causaux, telles que les croyances dispositionnelles, ou bien celles que j'appelle simplement des informations que vous recevez, mais que vous ne traitez pas, parce qu'elles sont encapsulées, en quelque sorte, dans un lieu qui va pouvoir être repris, comme dans les ordinateurs. Mais si vous vous en tenez à ce genre de conception, vous avez effectivement aucune chance de vous éduquer, d'éduquer votre jugement. Et je termine en disant « Amicus Spinoza, magis amica veritas ».
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.